Nous sommes réunis sur Pennsylvania Avenue, cette grande avenue qui traverse la capitale américaine. Pennsylvania Avenue, c'est l'adresse de la Maison Blanche, mais aussi celle du Wilson Building. C'est là qu'on est aujourd'hui, au 1350 Avenue Pennsylvania. C'est un grand bâtiment de granit et de marbre blanc.
Ouais, c'est vraiment le style Washington, hein, massif, avec des colonnes. Un peu prétentieux, je trouve, pour ma part. Mais vous savez ce qui s'est passé ici en 1975?
Non.
Eh ben, il y a eu une prise d'otage avec deux hommes armés qui ont retenu 12 personnes. Et il y a un jeune journaliste de 24 ans qui a été tué.
Aujourd'hui, c'est le bureau de la maire de Washington qui s'appelle Exactement. Muriel Bowser. Et là, sur la gauche du bâtiment, on voit la statue d'un autre maire du district de Columbia qui s'appelle Marion Barry, qui a été un maire extrêmement populaire ici à Washington. Il a fait plusieurs mandats.
Et si vous avez bien fait vos devoirs, vous savez pourquoi on est devant ce bâtiment aujourd'hui.
Et oui, c'est parce que c'est ici que se sont réunis plus tôt cette semaine les trois grands électeurs du district de Columbia qui ont voté, attention, roulement de tambour, sans surprise.
Ah ben, démocrate, évidemment.
Démocrate pour Joe Biden et qui ont contribué donc de leur façon avec leurs trois votes à la victoire de Joe Biden au collège électoral.
Et ce sont d'ailleurs trois grandes électrices qui ont donné leur voix à Joe Biden. Sur Pennsylvania Avenue, nous avons aujourd'hui
Anne Corpet, RFI.
Grégory Phillips de France Info.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Raphaël Grand, de la radio-télévision suisse. Et on retrouvera dans quelques minutes Sonia Dridi de la RTBF qui nous attend sur la côte ouest, en Californie.
Où elle doit avoir bien chaud.
J'espère, en tout
plus
cas pour
qu'ici,
elle.
C'est clair.
Un épisode qui va s'attarder sur le déroulé final de cette élection hors norme avec un président sortant, Donald Trump, qui à cette heure ne reconnaît toujours pas sa défaite. La démocratie américaine à l'épreuve de Trump, c'est l'épisode 31 de Washington DC. Bienvenue.
Joseph R. Biden has received 16 votes for President of the United States.
Now it's time to turn the page, as we've done throughout our history, to unite, to heal.
What happened to this country is that we were like a third world country. And I do worry about the fact, illegitimate president.
Washington, D.C.
Cette semaine, les Américains ont découvert en direct à la télévision quelque chose de nouveau, quelque chose qui habituellement n'attire pas vraiment l'attention, c'est une pure formalité, mais cette année, c'était différent, c'est le vote des grands électeurs.
Three votes for President-elect Joseph Biden and three votes for Vice-President-elect Kamala Harris.
Oui, si vous regardiez les grands réseaux de télévision lors de la journée du vote, c'était particulier parce qu'on y allait état après état. La journée a commencé à Montpellier, dans le Vermont, où les trois grands électeurs du Vermont, qui ne devaient pas d'ailleurs non plus être habitués à l'attention médiatique, ont voté, ça a été les premiers, et donc on a vu une série d'États où les grands électeurs se rencontraient dans des législatures, dans des bureaux de gouverneurs, parfois dans des endroits tenus secrets, comme en Arizona pour des raisons de sécurité, et parfois aussi, on a voté, évidemment en contexte de COVID oblige, virtuellement sur Zoom, ça a été le cas entre autres au Nevada.
Electors, please sign 7 copies of the original certificates of vote. The certificate of vote is the official record of your vote here today.
Et puis ça s'est poursuivi comme ça jusqu'à ce que Joe Biden obtienne les voix nécessaires.
Et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais dans certains États, il y avait un peu de folklore. Dans l'Alabama, par exemple, où il y a 9 grands électeurs qui, sans surprise, ont voté pour Donald Trump, il y a un comédien qui est arrivé déguisé en Oncle Sam et qui a expliqué, un peu comme une leçon d'histoire en direct, pourquoi c'était important que des petits États comme l'Alabama, évidemment, puissent participer au collège électoral. Bon, voilà, c'est les petites anecdotes de ce vote des grands électeurs.
Et puis il y a les grands électeurs habitués, par exemple à New York, Anne.
Oui, à New York, on a revu un couple célèbre, Bill et Hillary Clinton, tous deux grands électeurs de l'État. Ils ont signé chacun à leur tour la feuille des résultats devant les caméras. Mais le moment clé, quand même, de cette journée, c'était quand la Californie a voté.
I'm sure you all realize just how important this day is and your role in making it very special.
Parce qu'en apportant dans l'après-midi la voix de ses 55 grands électeurs aux démocrates, eh bien, la Californie a permis à Joe Biden de dépasser officiellement le seuil des 270 grands électeurs et donc de devenir le président élu. Au fond, cette journée, c'était un peu la réédition de la nuit électorale, mais en accéléré.
Et CNN a même rejoué le fameux call, comme on dit aux États-Unis, en annonçant, donc après le vote en Californie, Anne, l'élection officielle de Joe Biden. Joe Biden, 46e président des États-Unis, cette fois c'est bon, c'est fait.
Ah bah oui, enfin ce sera annoncé formellement au Congrès le 6 janvier, mais c'est fait, hein. Les procédures judiciaires lancées par le camp de Donald Trump ont tout échoué, le vote des grands électeurs a été certifié. La meilleure preuve que les républicains ne peuvent plus rien tenter, c'est que Mitch McConnell, le puissant chef de la majorité au Sénat, a enfin reconnu le résultat.
Many millions of us had hoped the presidential election would yield a different result.
Nous sommes des millions d'Américains à avoir espéré que le résultat serait différent, mais le collège électoral a parlé. Je veux féliciter Joe Biden, le nouveau président élu, a déclaré Mitch McConnell. Il a rappelé que Joe Biden avait été dévoué pendant de longues années au service public. Il a même appelé les Américains à se féliciter au-delà de leurs divergences, parce que pour la première fois de l'histoire des États-Unis, la vice-présidente élue est une femme. Bref, le vieux renard du Sénat est prêt à travailler avec la nouvelle administration.
Et du coup, moi, je voulais voir un peu ce que les républicains de base pensaient de ça, la ligne McConnell ou la ligne Trump. Et j'arrive d'Atlanta, en Géorgie, où j'étais hier matin avec un jeune homme qui s'appelle Coleman Williamson. C'est un militant républicain très investi dans la campagne Trump. Et je lui ai demandé... Ben voilà, McConnell vient de reconnaître la défaite de votre champion. Qu'est-ce que vous en pensez ?
L'Electoral College has voted, so I can understand why McConnell said that. He's also had a long-standing relationship with President or with Vice President Biden, I should say.
Not yet.
Et Coleman dit, bah, je comprends pourquoi Mitch McConnell a dit ça. Il a aussi une relation d'amitié depuis longtemps avec le président Biden. Et puis là, Coleman se reprend, il dit, non, je peux pas l'appeler président encore, pas encore. Voilà, il s'est un peu auto-piégé. Ce militant républicain pense encore que l'élection a été truquée et que c'est trop tôt pour désigner Joe Biden comme étant le 46e président des États-Unis.
Bon, ils ont encore jusqu'au 20 janvier pour s'entraîner. Je vous propose d'appeler Sonia, qui, elle, est en Californie, dans une petite poche rouge républicaine de cette Californie démocrate.
On l'appelle.
Allô ?
Salut Sonia.
Salut.
Tu es au sud de Los Angeles, c'est ça, à Orange County ?
Oui, et ici, on n'est pas loin de la très libérale ville de Los Angeles. Et Orange County, c'est beaucoup plus rouge que la plupart des régions de Californie. Alors, je me trouve dans un quartier un peu à la Desperate Housewives, où toutes les maisons se ressemblent et ont le gazon bien tondu. Et à côté des décorations de Noël, eh bien, on voit encore beaucoup de drapeaux Trump 2020.
Et Sonia, Anne évoquait le vieux renard Mitch McConnell, qui pourrait finalement plutôt bien travailler avec Biden. T'es d'accord avec ça?
Oui, alors McConnell et Biden se connaissent très bien et s'entendent bien, même si beaucoup disent qu'ils ne sont pas des buddies, des amis, comme par exemple Biden et le défunt sénateur John McCain. En fait, ils ont passé des dizaines d'années au Sénat sans vraiment se côtoyer, jusqu'au jour où Obama a été élu président. Et lorsque les républicains ont remporté la majorité au Congrès en 2010, eh bien, McConnell n'aimait pas du tout négocier avec Obama, qu'il surnommait le professeur, et il s'est tourné vers le vice-président à l'époque, donc Joe Biden. Au départ, McConnell disait de Biden, qui a tendance à faire beaucoup de digressions, si vous lui demandez quelle heure il est, il vous dira comment on fait une montre, mais il admet aussi que c'est quelqu'un qui non seulement parle beaucoup mais écoute aussi, et il a écrit dans ses mémoires, c'est quelqu'un avec qui je peux dialoguer, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je lui fais confiance. Et d'ailleurs Biden est assez sûr de lui sur ce coup-là, puisqu'il a confié il y a quelques jours qu'il avait parlé à l'un des républicains les plus importants au Sénat, sans dire qui c'était, qui lui a assuré que ces derniers étaient prêts à travailler avec lui, et Biden a lancé, vous verrez, vous serez surpris.
Sonia, tu restes avec nous depuis la Californie pendant que nous on affronte le vent et le froid,
froid.
À Washington DC.
Bon,
Mitch McConnell qui a quand même reconnu la victoire de Joe Biden après Vladimir Poutine. Hein,
au bout de 38 jours.
Voilà, en termes de démocratie, on peut faire mieux. Date encore à surveiller, le 6 janvier, alors là ce sera le décompte et la validation des voix des grands électeurs par le Congrès.
Exactement. Il pourrait encore y avoir certaines objections, certaines tentatives de la part d'élus républicains pour s'opposer, mais ils ne sont pas assez nombreux, clairement, et la cérémonie fait en sorte que c'est le vice-président sortant qui authentifiera les résultats et confirmera la victoire de Joe Biden. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est Mike Pence. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu Mike Pence reconnaître encore la victoire de Joe Biden. Et cette formalité-là, eh ben, elle fait en sorte que parfois dans l'histoire, on a eu des situations assez cocasses. Par exemple, en 1989, George Bush père, qui a lui-même reconnu et confirmé sa propre victoire aux élections présidentielles.
George Bush of the state of Texas has received for president of the United States 426 votes.
Et puis plus tard, en 2000, Al Gore, qui après une élection très serrée qui s'est rendue jusqu'en Cour suprême, a admis la victoire de George W. Bush aux élections présidentielles.
George W. Bush of the state of Texas has received for president of the United States 271 votes. Al Gore of the state of Tennessee has received 266 votes.
Oui, et d'ici le 6 janvier, le camp Trump espère quand même encore peut-être tenter quelque chose au niveau parlementaire pour compliquer effectivement la validation de ces résultats. Mais tu le disais, Anne, c'est vain comme effort parce que il faudrait avoir l'accord de la Chambre des représentants.
Contrôlé par les démocrates.
Contrôlé par les démocrates. Du Sénat. Et on sait qu'il y a déjà, je sais plus combien exactement de sénateurs républicains qui ont reconnu la victoire de Biden. Donc il faudrait que les deux chambres soient d'accord pour contester le résultat. En gros, ça marchera pas. Donc on voit pas bien où veut aller Trump dans cette contestation, ce jusqu'au boutisme qui, tout le monde est d'accord pour le dire, ne pourra pas aboutir.
Et pour revenir à cette scène à laquelle on va assister, à savoir Mike Pence annoncer la victoire de Joe Biden, eh ben, il faut se rappeler que c'est Joe Biden lui-même qui a dû annoncer la victoire de Donald Trump en 2016, et ça n'a pas été facile pour lui. D'ailleurs, il en a parlé il y a quelques jours.
Four years ago, when I was a sitting vice president of the United States, it was my responsibility to announce the tally of the Electoral College votes in the joint session of Congress that voted to elect Donald Trump. I did my job.
Joe Biden qui le dit, I did my job. J'ai fait mon travail, son travail en tant que vice-président. Nous sommes installés au centre de Washington sur cette célèbre Pennsylvania Avenue. On voit encore les dernières traces de neige, de glace dans les rues de Washington. Il neigeait hier, Grigory. D'ailleurs, t'as failli louper ton avion. T'es arrivé un peu au dernier moment, non?
Oui, je rentrais d'Atlanta en Géorgie. Énorme tempête de neige sur la côte est qui a failli paralyser les aéroports, mais j'ai réussi à passer entre les flocons et me voilà.
C'est vrai que c'est pas le Canada, hein, Washington. Non, aussitôt qu'il y a un demi-millimètre de neige,
tout s'arrête. Ici, exactement.
Dans cet épisode, on va revenir sur cette démocratie américaine qui a été tester, challenger. Est-ce que la démocratie a tenu le choc face à Donald Trump, selon vous? Est-ce qu'elle est aujourd'hui affaiblie ou renforcée, cette démocratie?
Moi, j'ai le sentiment que la démocratie américaine a quand même fonctionné. Évidemment, c'était compliqué, une élection au temps d'une pandémie avec des millions de bulletins envoyés par correspondance.
Grosse participation.
Qu'il a fallu traiter avec, effectivement, ça a pris un peu de temps, avec les recours déposés par l'équipe Trump devant des tribunaux dans les États clés. Mais finalement, ces tribunaux ont rejeté ces recours et ont validé les résultats de cette élection. Donc, j'ai le sentiment que les institutions ont fonctionné, quoi qu'en dise effectivement le président sortant.
Justement, ces juges, dont beaucoup ont été nommés par Trump, les démocrates ont beaucoup attaqué le principe de la justice, la politisation de la justice. Là, les cours fédérales, la Cour suprême, finalement, tout a bien fonctionné.
Oui, mais enfin, quand les démocrates dénoncent la proximité entre l'exécutif et le département de la justice, c'est pas seulement au sujet des élections, c'est tout au long de son mandat, hein, où Donald Trump n'a jamais cessé de peser sur le département de la justice. Il a demandé à ses deux ministres d'intervenir pour protéger ses amis. Et ça a plutôt bien marché, hein, en particulier avec William Barr, qui s'est quand même permis de dire qu'il n'avait pas remarqué de fraude massive pendant le scrutin. Ça a rendu Donald Trump furieux et c'est sûrement pour ça que William Barr a finalement démissionné avec une lettre, un sommet de flatterie rarement atteint. On a vraiment l'impression qu'il y a eu un deal entre lui et le président, hein. Je te vire pas par Twitter, mais en échange, tu me fais une belle lettre.
On appelle ça soigner sa sortie.
Voilà.
Plus de 155 millions d'Américains qui ont voté, des institutions, vous l'avez dit, qui ont quand même tenu le choc, mais cette élection 2020 va laisser des traces.
Oui, la crainte, c'est que oui, les institutions ont tenu le coup, mais que la confiance à l'endroit des institutions s'érode davantage. Et déjà, ce processus-là, il est bien entamé. Je suis allé voir les sondages de confiance de la firme Gallup, et c'est assez intéressant. Je vous donne un exemple. La confiance des Américains à l'endroit du Congrès entre 1973 et 2020 est passée de 42 à 13 %. Et évidemment, cette année, il y a eu, on en parlait, toutes ces allégations de fraude qui ont été partagées par le camp Trump. Et même si elles n'ont pas été prouvées, elles ont eu un certain écho au sein de la population. On en reparlera, mais aussi au Congrès. Il y a des républicains qui, cette semaine, ont tenu des audiences pour parler de ces allégations de fraude, malgré ces dizaines de revers en justice. Ce qui a fait réagir, d'ailleurs, le sénateur démocrate Tom Carper.
This is shameful. Enough already. We have work to do to get America back on track, starting right here in this Congress, in this House.
Tom Carper qui dit « C'est honteux, ça suffit, il faut passer à autre chose », surtout qu'il y a énormément de travail à accomplir aux États-Unis en ce moment.
Et quand on rencontre les partisans de Donald Trump sur le terrain, ben ils sont convaincus que le scrutin a été biaisé. Hein. On était en Géorgie ensemble, Raphaël,
ouais.
Et on a rencontré Kay. Elle vient du Texas et elle est convaincue que l'élection a été volée à Donald Trump.
The judges are corrupt, just like the Democrat Party and the Republican Party. Many Republicans are corrupt, very corrupt. And they think that we're going to just fall back in line with them after they've treated Trump terribly for the last four years.
Alors Kay dit, les juges sont corrompus, les démocrates sont corrompus et beaucoup de républicains hein, sont aussi très corrompus. Ils pensent qu'on va se mettre en rang derrière eux, mais non, on ne le fera pas. C'est à eux de nous rejoindre dans le parti de Trump, le parti de l'Amérique d'abord.
Et tu sais ce que m'a dit par ailleurs Anne, cette électrice, quitte à vivre dans un État corrompu comme les États-Unis, aussi bien déménager au Mexique, parce que là-bas, au moins, il y a de belles plages.
Tout ça va laisser des traces, hein. C'est sûr quand même, cette période où le président sortant ne reconnaît pas la victoire de l'autre. J'en parlais avec Angie, qui est une militante démocrate et qui dit
It's unprecedented in our history.
On vient de vivre et on est en train de vivre quelque chose de sans précédent.
And trying to overturn the election. Anger, sadness, fear. And determination.
Un président qui ne reconnaît pas la victoire de son adversaire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire américaine. Ça me rend à la fois triste, en colère et déterminé.
On a évoqué la Cour suprême, les juges, les sénateurs. Il y a aussi quelques élus locaux hein, qui ont fait la différence dans cette élection. Ils sont parfois démocrates, parfois même républicains. Et ils ont tenu face à la pression du camp Trump. Sonia, tu voulais nous parler de l'un de ces héros de l'ombre, en quelque sorte, révélation de cette élection.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est Aaron Van Langeveld.
Non.
Non plus. Bon, moi non plus. Hein. Je n'avais pas entendu parler de lui il y a encore quelques semaines, comme la grande majorité des Américains. Mais cet avocat discret, maigrelé, avec de fines lunettes posées sur le nez, est l'un des héros de cette période post-électorale. En fait, Aaron Van Langeveld est un républicain qui faisait partie des quatre membres de la commission électorale qui devait certifier le résultat final dans le Michigan. Et il s'est rangé avec les deux démocrates en rappelant notamment ce que disait le deuxième président des États-Unis.
John Adams once said, "We are a government of laws, not men." And this board needs to adhere to that principle.
Voilà, donc il dit, comme John Adams le disait, nous sommes régis par les lois et non par les hommes. Ce comité doit respecter ce principe aujourd'hui. Ce comité doit appliquer les règles de droit et certifier cette élection. Alors, beaucoup d'élus locaux ont fait l'objet de pressions de la part de la Maison Blanche. Et eh bien, ce jeune avocat républicain a résisté et n'a pas hésité finalement à faire basculer le cours de cette élection en faveur du camp adverse.
Voilà, parfois il faut faire appel au père fondateur des États-Unis.
Et tu parles de pression, mais enfin, il y a eu aussi beaucoup d'élus locaux, de secrétaires d'État dans les États qui ont carrément reçu des menaces de mort. Hein.
Cette démocratie américaine qui plie mais ne rompt pas, tout comme ce système des grands électeurs. Hein. Chaque 4 ans, on se demande, franchement, est-ce que c'est normal que ce soit 538 grands électeurs qui choisissent le président de la première puissance mondiale ?
Bon, c'est sûr que du point de vue français, par exemple, le suffrage universel indirect, c'est quand même une curiosité. Le collège électoral, il est régulièrement un peu remis en cause ici aux États-Unis.
Un serpent de mer, hein.
Souvenez-vous, pendant la campagne, notamment du côté des démocrates, on a entendu Pete Buttigieg remettre ça en cause, Elizabeth Warren aussi,
Bernie Sanders,
et même Kamala Harris, donc future vice-présidente, pendant la campagne, a dit qu'elle ne voulait pas forcément supprimer les grands électeurs, mais qu'elle était ouverte sur la question et qu'elle était prête à en débattre. Donc pendant la campagne, en tout cas, on a parlé d'une éventuelle réforme, mais comme tu le dis, on en parle depuis des années et ça n'a jamais abouti.
Ouais, bah, tant que les Républicains n'auront pas perdu une élection présidentielle en remportant le vote populaire, à mon avis, il n'y a aucune chance qu'ils acceptent de changer ce système.
Oui, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que il y a 4 ans, j'étais aux États-Unis pendant la dernière élection et il y avait eu un énorme débat, notamment conduit par Hillary Clinton, pour réformer le collège électoral. Et il faut dire que cette année, quand même, on entend moins les démocrates, après le résultat de l'élection, demander cette réforme du collège électoral. Donc je pense aussi que là, les démocrates ont gagné et ils se font un peu plus silencieux sur le sujet.
Et si tu veux mon avis, Sonia, dans 4 ans, on se retrouvera encore à parler des grands électeurs.
Oui, tout à fait.
Et on suivra en direct des séances au fin fond du Vermont diffusées sur CNN. Un mot encore sur peut-être Trump et Biden. On a quand même l'impression que le rapport de force s'inverse doucement.
Oui, c'est amusant parce que pendant la campagne, vous vous rappelez, Donald Trump n'arrêtait pas de vilipender Joe Biden parce qu'il était enfermé chez lui. Dans son sous-sol à Wilmington, tandis que lui, le président, courait la campagne. Ben là, c'est un peu l'inverse. Hein. C'est Donald Trump qui est retranché à la Maison-Blanche. Il ne sort plus. Et c'est Joe Biden qu'on voit sortir. Il était d'ailleurs cette semaine en campagne en Géorgie pour les sénateurs démocrates.
Et tu y étais, Greg?
Oui, pour Joe Biden, le président est élu, qui est reparti en campagne pour aller soutenir les candidats démocrates au sénatorial du 5 janvier, meeting à Atlanta en mode drive-in et un Biden très en forme, très heureux de reprendre la campagne électorale et particulièrement en Géorgie.
And thank you for standing strong to make sure your voices were heard, your votes were counted and counted and counted again. I'm starting to feel like I won Georgia 3 times.
Et le président élu s'amuse d'ailleurs à la tribune. J'ai l'impression d'avoir gagné 3 fois la Géorgie parce qu'il y a eu l'élection du 3 novembre, un premier recompte et un deuxième recompte. Et à chaque fois, Biden a été désigné vainqueur.
Voilà, 3 certifications du résultat en Géorgie, en effet.
Joe Biden, qui maintenant a toute la lumière sur lui en tant que président élu, la transition qui suit son cours, Trump, qui va aussi sans doute s'effacer peu à peu, j'imagine.
Il part déjà le 23 décembre à Mar-a-Lago pour les vacances de Noël. Il est censé revenir ici le 2 janvier.
Et puis, ben voilà, dans la presse aussi, le New York Times, tiens, il y a quelques jours, pour la première fois, publié sa première page sans parler de Donald Trump.
C'est rare, hein.
C'était une première depuis la présidence pour la presse américaine. Et pour nous aussi, les journalistes, notre quotidien, on va dire, va quelque peu changer ce Trump qui nous tenait éveillé
nuit
et
jour.
Oui, d'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait en ce moment des réunions à CNN et MSNBC, les 2 chaînes de télévision qui ont prospéré hein, au cours de ces 4 ans grâce à Donald Trump. Et ils se demandent comment faire pour maintenir leurs audiences après le départ du locataire de la Maison-Blanche.
Tu me fais rire parce qu'on a eu exactement la même réunion avec les radios publiques francophones, ouais, il y a 2 heures, les 5 radios partenaires pour savoir ce qu'on allait faire après l'investiture de ce podcast, de ce balado Washington DC.
Ah, grand débat.
Bon, c'est l'heure de conclure. Je voulais terminer sur ce son. Vous avez reconnu?
Oui, ce sont les cloches de la cathédrale nationale ici à Washington. Elles ont résonné pour rendre hommage aux plus de 300 000 victimes américaines de la pandémie de COVID-19. On en a peu parlé dans cet épisode, mais ça se poursuit, cette crise aux États-Unis. On a atteint des records cette semaine encore d'hospitalisation, de décès quotidiens. Il y a de l'espoir à l'horizon avec le début de la campagne de vaccination en territoire américain, mais c'est loin d'être terminé.
Et d'ailleurs, une précision, on continue d'enregistrer ces épisodes en extérieur et masqués.
Et il fait très froid!
Voilà, donc ce sera l'occasion de conclure rapidement et de vous souhaiter à tous un joyeux Noël ainsi qu'à nos auditeurs dans la francophonie. Le balado Washington DC vous donne rendez-vous en janvier et pendant cette pause bien méritée de fin d'année, on vous prépare aussi un hors-série, ça devrait arriver emballé pour Noël. Bonne fête, bonne année, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Washington DC avec
Sonia Dridi, RTBF,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Anne Corpet, RFI,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Réalisé par
Dimitri Katadotis.